France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h, 17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Cécile et Marie-Josée. Bonjour.
Bonjour Marie.
Si je dis Haïti, anesthésiste, BD, quel est le point commun? Jacques Brunat. C'est votre invité du jour, Marie-Jo, un itinéraire de vie insolite retracé dans une BD magnifiquement illustrée. Et tout de suite, on part sur les pas des mineurs de fer. On associe rarement l'Anjou et les mines de fer, et pourtant, pendant un siècle, elles ont été un moteur de l'économie du segréen. Pourquoi des gueules noires en Anjou? Qui étaient ces hommes? Comment vivaient-ils? Ce pan d'histoire est mis en valeur par l'Association des mines de fer de l'Anjou et son président Marc Beluet est là pour répondre à nos questions. On commence tout de suite avec vous Cécile, c'est parti pour 30 minutes ensemble.
La curiosité sous toutes ses coutures.
Sur la route qui va de Segré vers Rennes, vous avez peut-être aperçu une énorme structure métallique. C'est un chevalement de 36 mètres de haut, le plus haut d'Europe, il faut le signaler, et c'était la tour d'exploitation métallique qui domine le site des mines de fer de Bois 2 à Nyoiseau. Une friche industrielle un peu fantomatique, surtout à l'automne avec du brouillard, mais fascinante, digne des plus grands photographes d'Urbex. Aujourd'hui, vous n'y croisez que quelques moutons qui sont là en pâturage, mais en 1920, 800 ouvriers s'activaient ici. Et c'est grâce à l'action de la jeune association des mines de fer de l'Anjou que vous pouvez aujourd'hui visiter ce site atypique. Marc Beluet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et président de cette association, vous connaissez très bien les lieux. Alors, avant de nous raconter cette histoire qui est quand même assez étonnante, cette histoire de la mine de fer, parlez-nous du site. Que voit-on aujourd'hui quand on est visiteur?
Quand on est visiteur, il suffit de pousser déjà le portail, il est ouvert en permanence. Ça, c'est déjà intéressant de savoir que là, vous avez une entrée libre qui permet de voir une exposition que nous avons réalisée et qui retrace la vie des mineurs de chez nous, bien entendu, mais plus globalement, l'histoire du fer en France et du fer dans le monde. Alors, tout ça à travers des panneaux d'exposition, des fresques, des scénographies.
Et on peut même aller voir quand même une petite salle des machines derrière une vitre.
Ah, c'est quelque chose dont on est plutôt assez fier, même si on est dans l'ensemble plutôt fier de tout, de tout ce qu'on a fait. Mais comme dans les associations, on est toujours content de ce qu'on fait. Enfin, voilà. Majorité du temps.
Hein. Bon, c'est un site qui permet vraiment de comprendre ce qui s'est vécu là, depuis quand, comment et pourquoi. Alors depuis l'Antiquité, on sait qu'il y a du fer dans la région, mais l'exploitation n'a commencé que vers 1880. Hein, le fer dans l'imaginaire français, c'était quoi? C'était la Lorraine, enfin pas que dans l'imaginaire d'ailleurs. Alors pourquoi? Racontez-nous l'histoire de ce site et pourquoi il a émergé si tard.
Bien, effectivement, du fer, il y en a un peu partout dans le monde. Et un peu partout aussi en France, mais en quantité quelquefois si peu importante que ça ne vaut pas la peine de l'exploiter. Donc on savait depuis très longtemps qu'il y avait du fer dans l'ouest de la France, mais on ne s'y intéressait pas plus que ça, sinon qu'à partir de 1840, on avait commencé à faire des prospections un peu. Et puis arrive là-dessus la guerre de 1870, à l'issue de laquelle la France perd l'Alsace et on va dire la Moselle. On dit quelquefois l'Alsace et la Lorraine, l'Alsace et la Moselle. Et 95% du fer français se trouve en Alsace et en Moselle. La France n'a plus de fer, se tourne vers d'autres régions, dont l'ouest de la France.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a une raison technique pour laquelle on n'avait pas cherché dans cette région ici de l'ouest à l'exploiter ou c'est juste...
On n'avait pas vraiment de raison parce qu'encore une fois, 95% du fer, on savait, et il était exploité depuis longtemps dans l'est de la France. Ensuite, ce qu'on exploite, c'est du minerai de fer. Quand on va vite, on dit fer, c'est du minerai. Mais le minerai, pour obtenir du fer, il faut des hauts fourneaux. Pour avoir des hauts fourneaux, il faut une forte température, il faut du charbon. Or, du charbon, c'est aussi dans l'Est et dans le Nord de la France qu'on a du charbon, pas dans l'Ouest, ou quasiment pas. Donc, c'est pas par hasard que... on se contentait, entre guillemets,
eh oui, d'être de cette région-là. Et nous, on n'a pas de charbon, par contre.
Très peu. À Chalogne, il y avait des mines, mais c'était... Et puis, il n'y avait pas de hauts fourneaux non plus, parce qu'il faut des hauts fourneaux. Alors, il y en a eu un moment à Saint-Nazaire, mais ça n'a pas fonctionné très longtemps.
Donc, en fait, on commence à exploiter. Alors, est-ce que ça démarre vite? Est-ce que c'est facile? Est-ce que le minerai et les mines ont été à la hauteur des attentes et des besoins?
Ça a été difficile parce que c'était pas comme dans l'Est. Dans l'Est, il y avait quelquefois des mines qui étaient, on va dire, à flanc de coteau. Donc, on était tout droit pour exploiter. Là, il fallait descendre. Et à partir du moment où on creuse, bien, il y a rapidement des risques d'inondation et d'éboulement. Et les premières mines ont dû être fermées pour cause d'inondations et d'éboulements. Et puis des techniques ont évolué et à partir des années, on va dire 1920, 1930, grâce à l'électricité notamment, eh bien on a eu des pompes beaucoup plus puissantes pour pomper l'eau qui arrivait dans les galeries, pour descendre plus profondément. Et la production, la grosse production, ça a vraiment commencé dans ces années-là, 1920-1930.
Alors je vous de poser une question de Béotien, mais pourquoi il y a de l'eau quand on creuse dans une mine de fer?
Parce qu'on sait que, par exemple, on entend parler en ce moment de nappe phréatique. Il faut bien qu'elle se tienne quelque part, l'eau. Et ce n'est pas forcément un grand lac ou une grande nappe. Il y en a un peu partout, alors que dans l'ardoise, il y en a relativement peu. Dans le charbon, pas non plus. Mais là, avec le minerai de fer, l'eau, elle coule. Et les ouvriers, quand ils remontaient le soir, ils étaient trempés. À chaque fois.
Ils étaient aussi un petit peu noirs à cause des explosions.
Ah, ils étaient noirs et trempés, ça c'est vraiment la particularité. On les a appelés les gueules noires, c'était plus particulier au charbon, mais les mineurs de fer également.
Alors le fer au début, on y va à l'appel, on y va à l'explosif, comment on fait?
Bien, on commence d'abord effectivement à l'appel et à la pioche. On a quelques photos des années 1900, c'est comme ça qu'on exploite. Et puis assez rapidement, bien, voilà, y a... quand on parle des mines de fer, il faut toujours savoir à quelle époque on se situe. À partir des années 1900-1910, l'électricité arrive et puis on peut donc faire marcher beaucoup plus de machinerie. On peut envoyer de la pression. Et là, on utilise à ce moment-là des perforateurs. Pour les gens qui ne verraient pas ce que c'est un petit peu comme un marteau-piqueur. Seulement, au lieu de défoncer le sol, ça sert dans le sens de la hauteur. Vous voyez, toute cette machinerie-là va permettre une exploitation jusqu'à 400 mètres de profondeur, par exemple.
Oui, alors c'était la question que j'avais. Les galeries allaient à 400 mètres de profondeur et sur quelle longueur, quelle distance?
C'est-à-dire qu'il y avait des filons qui allaient très loin. Là, lorsque la mine a fermé en 85, on était rendu à 10 km de l'endroit où l'on descendait.
Initial de Bois 2.
Mais on aurait pu aller plus loin. Parce que si on continuait une dizaine de kilomètres plus loin, il y a un village qui s'appelle Chazé-Henri, où là aussi, il y avait eu des mines qui étaient fermées. Mais il y avait des mines. Donc, vous voyez, ce filon, il continue. Et on peut dire qu'il continuait dans le massif armoricain.
Jusqu'à Brest.
Voilà, quasiment. Après, par contre, il y avait un arrêt.
Au moins jusqu'à Brest. Alors, parlons des hommes quand même, parce qu'on a l'impression, quand on visite le site, c'est toute une histoire, c'est toute une communauté. D'où ils viennent, les mineurs? Qui sont-ils?
Au départ, ce sont des ouvriers agricoles. Il commence à y avoir, c'est des environs. Et puis, les ouvriers agricoles, c'était à l'époque un métier difficile, ouvriers agricoles, dans des conditions de travail assez particulières, pas toujours bien payées, d'après ce qu'on en sait. Donc, les ouvriers, là, aux mines de fer, les journées sont peut-être pénibles, mais au moins, il y a toujours un salaire et il y a toujours des congés payés, par exemple. Surtout à partir de 36, bien sûr, les congés payés. Donc, ces ouvriers agricoles font venir leurs frères. On connaît énormément de fratries qui ont travaillé aux mines de fer. Puis à un moment, il y a quand même besoin d'un peu plus de main-d'œuvre, donc on fait appel à ce moment-là à des ouvriers immigrés. Et dans les mines de fer, ça va être principalement des Polonais et des Italiens.
Et des Italiens. Alors, quand on arrive vers le site, on voit justement ces maisons qui sont typiques des villages ouvriers, avec la petite chapelle à la fin, ces lignes de petites maisons. Est-ce que c'était un village en soi? Est-ce qu'il y avait une vie particulière, une communauté?
Assez rapidement, c'est devenu comme des villages. Alors, ça a été construit, ça, par les propriétaires des mines de fer, parce que si, encore une fois, les ouvriers venaient du milieu agricole, pendant un certain nombre d'années, quand leurs anciens patrons avaient besoin d'un peu plus de main-d'œuvre, notamment au moment des moissons, bien, ces ouvriers-là retournaient chez leurs anciens patrons. Et on n'avait plus personne à la mine. À partir du moment où on va leur construire des maisons, dans lesquelles ils ne vont pas payer de loyer... Ils vont avoir un jardin à côté.
On, c'était les patrons, en fait.
On, c'est les patrons.
Voilà, hein. La construction, c'est le patronat.
C'est les patrons qui vont faire
pour fixer leurs ouvriers.
Comme les ardoisières avaient fait avant. Proche de chez nous et proche d'Angers aussi, on a des exemples à Trélazé. Comme dans le Nord, ça a été fait pour les mineurs de charbon. Ces endroits, on les appelait les corons. Chez nous, on ne disait pas, moi, je n'ai jamais dit que j'étais né dans un coron, je suis né dans une cité ouvrière. Mais au bout d'un moment, ça va devenir un peu comme des villages avec un comité des fêtes, une équipe de foot, etc. etc.
Et par rapport au village environnant, comment ça se passe? Est-ce que tout ça s'articule bien? Est-ce qu'ils sont intégrés à part?
L'intégration ne s'est pas faite très rapidement. Hein, parce que pendant longtemps, il faut essayer de se remettre dans les années, par exemple, 1900, 1910, 1920. On est à la campagne, tout se passe sur la terre. Hein, l'agriculteur, il cultive la terre. Le charron, le menuisier, le maréchal ferrant, tout le monde travaille sous la terre. Sur la terre, les seuls qui descendent sous la terre sont des mineurs. C'est quand même étrange. En plus, quand ils remontent, ils sont noirs. Ils rentrent chez eux, parce que les douches ne sont arrivées que dans les années 1950. Avant, il n'y a pas de douche. Donc, quand ils rentrent dans la cité, ils sont entre eux. Mais la moitié ne va pas rentrer dans les cités. Ils vont continuer à habiter dans les villages des alentours. Donc, ils rentrent chez eux. Ils sont sales, c'est vrai. À l'époque, on le sait bien, il y a des buvettes à chaque coin de rue et à chaque carrefour. Après une dure journée, le gars s'arrête, prend un verre, il fait chaud, il en prend deux.
Il a soif,
il en prend trois. Ça paraît pas, voilà. Donc, vous voyez, tout ça, pour être bien vu par la population, ça a mis un certain temps. Et puis, heureusement, tout ça, ça a changé. Et puis, les enfants, là, on est à peu près comme vous.
Oui, vous nous avez dit que vous étiez né dans une cité, dans cette cité de Bois 2, justement, et effectivement.
Voilà.
Vous n'êtes pas sale, d'ailleurs.
Non, on doit le dire. On a de l'eau courante. Dans nos maisons, des gens comme moi, quand on est né, et jusqu'à une douzaine d'années, on n'avait pas l'eau courante, mais on n'était pas les seuls non plus, hein. À l'époque, vous voyez bien.
Alors, ils avaient tous des surnoms, on voit ça sur un panneau, c'est très drôle, comme une famille, en fait.
Ah oui, puis que les gens insistaient.
Parlez-nous de ces surnoms.
Alors, les surnoms, vous voyez, par exemple, ce matin, je guidais une visite, parce qu'on peut accueillir des visites, il y avait 70 camping-caristes, par exemple. Alors, c'est moi qui les guidais, et une personne qui a tenu un garage, là, à Nivoiseau, me dit, bien, il y a telle personne, là. Quand elle est venue, je l'ai appelée, je peux citer son nom, peu importe. Oui, bonjour, monsieur Bernard, il a dit, ah non. Moi, vous m'appelez le père Dindon. Son surnom, c'était le Dindon. Comme il était un peu vieux, c'est le père Dindon. Il ne voulait pas que quelqu'un l'appelle monsieur, mais c'était le père Dindon.
Parce qu'il a été mineur, ce monsieur-là.
Il était mineur.
Ah, okay.
Alors, c'était une jeune femme. Elle a dit, moi, appeler quelqu'un le père Dindon, ce n'était pas si facile que ça. Hein. Il a dit, donc, voilà, c'est ça. Et ses enfants, que je connais très bien, parce qu'ils seraient peut-être même de ma famille, eh bien, on les appelait les petits Dindons. Ça durait. Tout ça parce qu'avant ce père Dindon, qui était rentré à la mine en 1925, il y avait quelqu'un qu'ils avaient appelé le Dindon. On ne sait pas pourquoi, parce que vous voyez, ça remonte loin, et bien ça suivait.
Donc ils avaient tous un surnom.
C'était, quasiment.
Alors, parlons d'un sujet moins drôle. Ouais. Il vous avait dit qu'il descendait jusqu'à 500 mètres. C'est grâce au chevalement qu'on a vu, hein, qui avait tout un système de treuil, donc avec un... Pas un ascenseur, mais une plateforme qui descendait, qui remontait.
Oui, une cage qui descendait.
Cage qui descendait.
Et à l'intérieur de la cage, il y avait des berlines. Des berlines, c'est des wagonnets, il y a deux termes. Elles descendaient vides et elles remontaient avec du minerai de fer. Les ouvriers descendaient le matin et remontaient le soir. Tout se passait. En fait, ce n'est pas 500 mètres, c'est 400.
Mais enfin, 400.
On avait creusé jusqu'à 500 mètres.
Et les accidents, est-ce qu'il y en a eu beaucoup dans ces mines de fer? Il n'y a pas de grisou comme dans le charbon.
Non, voilà, et c'est quand même une des grandes différences. Hein. Alors, il y en a eu, dans les chiffres officiels, nous on peut servir que de ça, de 1910 à 1985, il y a eu 45 morts. C'est forcément 45 de trop. Mais avec des milliers de personnes qui ont travaillé dans ces conditions-là, on peut dire que, Voilà, hein, c'est ce qu'on va dire. Mais c'est 45 de trop. Quand on se dit, par exemple, qu'avec les coups de grisou à Courrières, dans le Nord, un seul accident, il y a eu 1100 morts. Donc, on est bien obligé de tenir compte de tout ça. Par contre, ça va être la silicose qui va faire des ravages, hein, parce que c'est la
l'absorption
poussière.
L'absorption de poussière.
Ah, oui.
Et alors, dernier point, parce que le temps passe vite, hein, on aurait tellement de choses à dire sur le sujet.
Non, on peut y aller encore.
Il y a un endroit qui s'appelle la salle des pendus. Alors ça, je voudrais bien savoir ce que c'est la salle des pendus. On pendait quand même pas les mineurs.
On pendait pas les mineurs. Non, non, puis ils seraient pas laissés faire, hein, parce qu'ils s'étaient organisés. S'ils ont eu des difficultés à s'organiser en syndicat pour diverses raisons, ils savaient défendre leurs droits. La salle des pendus, c'est parce que les gars, je dis toujours les gars parce qu'il n'y avait pas de femmes à travailler, d'accord. Quand je parle des ardoisières, il y avait des femmes, je dis pas la même chose. Donc là, les gars, quand ils remontaient, ils étaient trempés et sales. Jusqu'en 1950, ils rentraient comme ça chez eux, qu'ils habitent dans la cité à côté ou dans un village à quelques kilomètres. Quand il va y avoir des douches, il y aura également une chaufferie. Donc l'ouvrier qui arrivait, il arrivait avec ses habits de tous les jours, si vous voulez. Hein. Ses habits de travail étaient pendus, il descendait, il les prenait. Il remontait ses habits propres en hauteur et il descendait dans le fond de la mine. Quand il remontait de la mine, encore une fois, il était sale et trempé. Il reprenait ses affaires propres, il pendait, hein, avec un système de crochets, ses habits sales en l'air. C'est pour ça qu'on appelait ça la salle des pendus. Et quand il revenait à l'équipe d'après, eh ben, il récupérait ses habits qui étaient secs.
Qui étaient toujours sales, parce qu'ils étaient restés en hauteur.
Mais au moins, ils étaient secs.
D'accord. Bon, beaucoup de choses à voir, donc, parce que vous avez des panneaux et quelques petits jeux interactifs, je tiens à le dire, pour les enfants qui montrent bien le fonctionnement. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que le fer, pour pouvoir le traiter, il faut qu'il soit aimanté.
Oui.
Donc, vous montrez ça aussi à travers un petit jeu qui est très bien fait. Mais quel a été donc le rôle de votre association, l'Association des mines de fer de l'Anjou, pour mettre en valeur ce site?
C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, en venant y jouer une pièce de théâtre, eh bien que c'était abandonné, ça on le savait, et puis qu'un jour ça risquait de s'écrouler. Hein, et puis que les villes n'allaient pas prendre le risque de laisser quelque chose qui était squatté en permanence. Donc à partir du moment où on a créé l'association, ce qu'on a voulu faire, c'est sauvegarder le site. Ça, on y est arrivé, et ensuite le mettre en valeur. Alors, le mettre en valeur avec cette exposition, encore une fois, où on accueille quasiment 10 000 visiteurs par an. On a un compteur d'entrée, donc on mesure. Alors, ça, c'est en visite libre, mais en visite guidée, on a environ 1 000 groupes. Je vous dis, ce matin, j'ai accueilli 70 camping-caristes. On a des établissements scolaires. On est organisé.
D'accord. Donc, pour organiser une visite guidée de groupe, il faut aller sur le site de votre association et faire une demande. C'est payant?
Alors, les visites guidées, oui. Alors, soit, moi, j'ai formé des médiateurs pour qu'ils puissent accueillir les scolaires, car moi, je voulais me décharger un peu. C'est payant. Quand c'est moi qui guide les visites, naturellement, tout revient à l'association. Mais quand ce sont des médiateurs, ben, ma foi, ça leur permet à des gens, des jeunes artistes, de gagner un peu d'argent.
Bravo. Ben, écoutez, merci Marc Beluet. C'est vraiment une visite qu'on a trouvée vraiment insolite, mais passionnante aussi, parce que c'est tout un pan de notre histoire. Donc, vraiment, à ne pas manquer, hein, ce patrimoine minier. Très bien fait et c'est gratuit si vous y allez en visite libre. À noter qu'il y a partout autour dans les bâtiments aussi des ateliers d'artistes, donc l'endroit est un endroit qui vit, il n'y a pas que les moutons dont j'ai parlé au début.
Non, c'est le carreau de la mine, on l'appelle le carreau de la mine, art et patrimoine minier, parce qu'effectivement tout ça, ça se passe en bonne intelligence, en bonne entente, avec tout un collectif d'artistes qui est installé à côté de chez
qui sont implantés sur place.
Voilà, les mines ont fermé en 1985, mais tout ça reste encore très vivant, il s'y passe beaucoup de choses. Merci beaucoup Marc Beluet, merci Cécile. Pour en savoir plus et préparer votre visite éventuellement, eh bien allez sur le site minedeferanjou.fr.
Tranche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Une fois n'est pas coutume, Marie-Josée, vous avez lu une BD et elle vous a captivée. Elle raconte une vie atypique, celle de votre invité.
Bonjour docteur Jacques Brunat.
Bonjour.
Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, rattaché jusqu'en 2019 à la clinique Saint-Léonard à Trélazé, mais également médecin sans frontières. Fin 2024, vous sortez une bande dessinée intitulée « Itinéraire du doc solidaire », illustrée par Gérard Berthelot aux éditions Olizel. Cette BD raconte vos missions humanitaires au sein du service de santé des armées et des ONG durant, 37 ans. En tant que lectrice, la BD n'est pas ma tasse de thé. Je lis les textes sans regarder les illustrations. Mais avec votre BD, c'est l'inverse. Un grand bravo à votre dessinateur Gérard Berthelot. Car en un coup d'œil, j'ai visualisé paysages, visages, ambiance tendue dans les hôpitaux où vous opérez. Je signale au passage que cette BD est préfacée par le docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais, prix Nobel de la paix 2018, que l'on nomme « l'homme qui répare les femmes ». Il a fait une partie de ses études à Angers et il a donné son nom en 2023 à un bâtiment de la maternité angevine. Pour vous avoir vu à l'œuvre dans son propre hôpital au Congo, il vous qualifie d'anesthésiste de haut vol. Dans des mondes apocalyptiques, à Haïti, au Kosovo, en Éthiopie, au Népal et j'en passe, j'ai trouvé votre parcours exceptionnel qui force l'admiration. Alors, pourquoi une BD ?
Alors, la BD a été faite parce que je voulais transmettre à mes enfants quelque chose. J'envoyais régulièrement des mails à mes amis proches, ainsi que des photos. Mais les mails étaient parfois très violents, difficiles à lire, avec ma colère qui n'était pas dissimulée, les photos parfois dramatiques. Et écrire un livre, c'était pas possible. Et un ami m'a dit, écoute, ça peut passer avec une BD. Donc, j'ai rencontré Gérard Berthelot et tout est parti de là.
Et qu'est-ce qui vous a incité à devenir médecin humanitaire ?
Alors, deux choses. Une photo que j'avais quand j'étais gamin, d'un médecin militaire qui s'appelait Carfor, qui opérait en Indochine, où il avait perdu un patient. On voit très bien sur la photo. Et la rencontre d'une infirmière qui s'appelle Anne-Sophie en salle de réveil à la clinique Saint-Léonard qui m'a dit « Attends, c'est pas possible, il faut que tu fasses de l'humanitaire ». Donc c'est elle qui m'a poussé dans un premier temps avec Médecins du Monde.
Et quelle mission alors vous a particulièrement marqué ?
La plus difficile, probablement Haïti.
C'était en quelle année ?
Le tremblement de terre à Haïti.
C'était en quelle année ?
2010.
Ah oui. Et pourquoi elle vous a marqué ?
Beaucoup de difficultés, beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Le problème, c'est que notre ONG a envoyé du matériel à un hôpital complet, mais du fait du capharnaüm qu'il y avait sur le terrain d'aviation, les ONG ne pouvaient pas récupérer leur matériel. Donc il a fallu se débrouiller avec les moyens du bord, avec une désescalade sécuritaire pour prendre en charge les patients.
C'était lors du séisme, n'est-ce pas ?
C'était lors du séisme, oui. À Port-au-Prince.
Oui.
Et la désescalade sécuritaire est difficile à accepter, surtout qu'il faut toujours préserver le patient.
D'accord. Et alors, sur le terrain, quels sont les défis prioritaires à gérer ?
Alors, justement, donc, adapter la précarité des moyens mis à disposition par rapport à l'environnement qui se présente. Toujours en préservant le patient.
Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une situation où il a fallu prendre une décision rapide ?
Oui, je repense à un petit gamin au Tchad qui avait été encorné par une vache qui était sur le dos de sa mère. Et je venais d'arriver dans cet hôpital. Je ne connaissais pas les lieux. Et donc j'ai appris où était le bloc et on m'a dit qu'il y avait cet enfant à endormir. Donc je suis allé au bloc opératoire avec mon chirurgien Michel. Et donc je connaissais pas les lieux. J'ai récupéré un peu de matériel. J'ai endormi le patient. Et comme c'était de nuit, au Tchad, il fait nuit très tôt. La lumière, on s'est retrouvé dans le noir complet, alors que le gamin était endormi. Et il ne pouvait pas ventiler tout seul. Donc j'ai un coup de bol. J'ai réussi à mettre la main sur mon laryngoscope. C'est un petit appareil qui éclaire, qui a une faible luminosité, qui permet de mettre un tuyau dans la trachée du patient. Et bon, grâce à ça, j'ai réussi à le garder.
Est-ce que vous avez un souvenir qui vous vient là, à brûle-pourpoint, un souvenir d'une population qui vous a particulièrement touché.
Voilà. Oui, touché. Ce qui m'a le plus touché, je crois que les... Alors, il y a effectivement, il y a Haïti, mais j'ai beaucoup aimé les Tigréniens. Donc, c'est les gens du nord de l'Éthiopie qui sont des gens extraordinaires qu'il faut connaître.
Ah oui. Et là, je passe à autre chose. Je pense, est-ce que vous avez aimé les criquets frits au Tchad? Vous avez mangé des criquets frits?
Oui.
Vous avez aimé?
C'est spécial et ça croque.
Alors là, je pense à quelque chose. Il y a une opération stupéfiante que vous décrivez. Et c'est le comble pour un anesthésiste. Vous avez été blessé avec une boîte de conserve.
C'est exact.
Et la suture se fera sans anesthésie.
Oui.
Ça, c'est quand même étrange. Oui. Et c'est le comble pour un anesthésiste.
Je suis d'accord.
Mais vous avez connu des moments chaleureux sur place.
Tout à fait, oui.
Qu'est-ce que vous en retenez?
Ce que j'en retiens, c'est que ce que j'appelle, moi, à mon niveau, la Légion d'honneur, ma Légion d'honneur, c'est tous les sourires des patients qu'on a réussi à aider.
Ah, oui.
Que ce soit des gamins, des enfants, des adultes, des anciens, c'est vraiment le plus plaisant.
Oui.
Et ça réchauffe le cœur.
Oui, et la Légion d'honneur, vous la méritez, oui, c'est sûr. Et je pense à une aventure qui vous est arrivée, c'est quand même extraordinaire. En 2016, j'ai noté vos ennuis à l'arrivée au Kurdistan. Vous avez vos valises qui contiennent tout le matériel qui vous est confisqué par la douane, oui, faute de papier. Alors, oui, vous venez aider la population et on vous refuse l'accès.
Oui.
C'est quand même...
On ne jette la pierre à personne.
Je voudrais dire quelques mots des planches de Gérard Berthelot, parce que la BD, les planches sont en bleu et noir. J'ai trouvé que cela créait une atmosphère froide et clinique qui correspond bien au contexte médical. Les dessins respirent l'urgence avec des scènes saisies sur le vif. C'est presque une narration cinématographique avec alternance de plans serrés sur les visages, des plans moyens comme le geste médical ou des plans d'ensemble comme les paysages. Et alors, vous m'avez dit hors micro la mésaventure qui est arrivée à votre illustrateur en milieu de BD. Alors, il en parle d'ailleurs en préface.
Donc Gérard, pendant le Covid, a eu un accident vasculaire cérébral qui a touché le côté avec lequel il dessinait. Et donc il n'avait réussi à faire qu'un chapitre. Et donc il y a une quinzaine de chapitres. Et il m'a dit un jour, je me souviens très très bien, mon cerveau s'est dessiné, ma main droite dessinera. Et il a fini la BD.
Eh oui. Et moi, j'ai trouvé le trait souple, presque fragile. Il ne cherche pas la perfection, et pour une bonne raison, mais on sent la vérité d'un geste, d'un regard, et tout est digne. La retenue des couleurs renforce l'insincérité du témoignage. Quant au style, je suis très attachée au style, ça on ne se change pas. Le style de la BD est rapide, croqué sur le vif. Il traduit bien la tension du terrain, la fatigue, la précarité, mais aussi des moments de réconfort et des sourires dont vous venez de parler. Et je retiens une chose importante, c'est que la transmission de vos émotions est palpable. Une très belle
découverte.
Oui.
Merci Dr Jacques Brunat pour ce magnifique parcours humanitaire riche. Merci pour cette BD avec Gérard Berthelot, qui est dessinateur de métier.
Oui.
Une belle rencontre aussi sûrement pour vous. Alors vous pouvez retrouver cette BD, chers auditeurs, si vous le souhaitez, sur le site de l'éditeur qui s'appelle Oisel. O-Y-S-E-L.
Olysel.
Olysel. O-L-Y-S-E-L. S-E-L.com, excusez-moi. Eh bien, c'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Elliot pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h, et bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.